les fuites de données passives. Je donne ce nom, dans cet épisode, à une certaine catégorie de diffusion de données personnelles, celles pour lesquelles on ne peut rien faire.
Alors ça sert à quoi d'en parler ?
C'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas de nom, à ma connaissance. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'y peut rien. Mais je trouvais intéressant d'en répertorier un maximum. Même si vous ne mettez jamais les pieds sur Internet, vous n'échappez pas à ce type de diffusion. Prenons un exemple. Admettons qu'un jour, vous soyez né. Ne le prenez pas pour vous, hein, c'est qu'un exemple. Vous naissez, là, comme ça, vos parents vous donnent un prénom, vous héritez du nom de famille de votre père, et hop, un acte de naissance est créé. Vous n'en avez pas la maîtrise, puisque la seule chose sur laquelle vous êtes compétent à ce moment-là, c'est de pleurer. Notez que ce n'est pas un drame à ce niveau-là de votre vie. Cet acte de naissance comprend vos premières informations qui seront répertoriées dans votre état civil. Celui-ci permettra plus tard de graver dans le marbre votre acte de mariage et encore plus tard votre acte de décès. Vos premières données personnelles, félicitations, vont servir à renseigner les administrations comme par exemple la Sécu qui va y associer un numéro qui vous suivra toute votre vie mais que vous ne pouvez pas choisir vous-même. Et ça tombe bien parce que vous ne savez pas encore compter. On ne tarde pas à vous offrir un carnet de santé, version papier, mais ne vous en faites pas, vos données médicales sont quand même immédiatement informatisées en attendant d'obtenir votre carte vitale à 16 ans. Et vous pourrez ensuite créer votre dossier médical partagé, carnet de santé numérique qui sera alimenté à chaque consultation ou intervention médicale et consultable par les professionnels de santé de votre choix et le SAMU.
Et les cybercriminels ?
Non Martine, ça c'est pas prévu.
Mais comme c'est informatisé ?
Oui, le risque zéro n'existe pas.
Surtout sur les données de santé.
Bon, je peux continuer ? Oui. Heureusement, on ouvre ce dossier médical partagé que si on le souhaite.
Dans l'attente de la publication des textes réglementaires, dit la CNIL. Après, ce seront des données passives, comme tu dis.
Ouh, tu as bien travaillé sur le sujet en cachette, toi. Enfin voilà, votre santé est sur des serveurs. Puis vient l'obligation d'aller en classe.
Oh non, non, je veux pas y aller.
Ah, des mauvais souvenirs remontent ? L'éducation nationale te crée un livret scolaire, et comme elle est moderne, elle met ça sur des serveurs. Tes parents aussi sont connectés. Et comme ils sont fiers de toi, ils partagent sur leur blog et les réseaux sociaux ta trombine sous tous les angles. Tu as beau être né avec un smartphone dans les mains, tu ne sais pas les empêcher dès tes premiers jours de vie de publier ta vie privée de bébé. Échographie, naissance, premier pas, premier mot, tes bêtises...
On va s'arrêter là.
Oui, pardon. Et même quand tu sauras supprimer des publications, tu ne maîtriseras pas la suppression certaine de tes données sur les serveurs des sites concernés. Certains, même, trouvant ta bouille craquante, n'hésiteront pas à réutiliser ces photos pour de la pub. D'autres auront laissé ces archives sans protection, à disposition de toute personne voulant les utiliser à toute fin possible et imaginable. Sans parler de l'indexation dans les moteurs de recherche. Voilà, ta photo de naissance et les suivantes se retrouvent dispatchées sur le net. Tu es au collège.
Mais pas du tout, enfin.
Mais non, mais c'est la suite de mon récit. Donc tes parents s'inquiètent un peu de te voir partir toute seule et commencer à te gérer. Alors pour garder le contact, ils t'offrent un téléphone basique. Enfant modèle.
Merci.
Pour l'instant. Tu ne demandes pas un vrai smartphone et te contentes d'appeler tes parents et parfois tes copines. Ces personnes ont ton numéro dans leurs contacts, mais aussi, sur leur smartphone, les différentes applications de Google, Facebook, des jeux, la météo, la banque, une appli de QR code, de podcast, comme ils ont raison, Deezer, Spotify...
Stop !
Oui, désolé, je m'emballe. Et toutes ces applications adorent les répertoires des téléphones, et avec l'autorisation, parfois un peu forcée, des personnes, ont récupéré ton numéro... associé au nom ou surnom qui t'a été attribué par ton entourage. Facebook s'est empressé de te créer un profil fantôme alors que tu n'y as jamais mis les pieds. Les éditeurs des autres applis ont pu revendre ou se faire voler les bases de données dans lesquelles tu te trouves, bien que tu n'aies aucune application sur ton propre téléphone.
Tu es sûr de ça ?
Le problème avec l'être humain, c'est que tant qu'il n'a pas de preuves, il doute. alors qu'une machine ne se pose pas de questions et exécute ce qu'on lui demande de faire. Et tu admettras facilement que sur le nombre de créateurs d'applications existants, certains peuvent être malhonnêtes, et d'autres revendent légalement tes données, avec le consentement de tes amis n'ayant pas lu les 45 pages de conditions d'utilisation. En tout cas, ton numéro partout sur le net, c'est le constat que fait l'équipe de Cache Investigation dans son émission de la semaine dernière appelée « Nos données valent de l'or ». Et ils sont du genre à bien se renseigner avant d'avancer des affirmations. Ils présentent notamment des outils en ligne appelés Lusha ou Cold CRM qui donnent, pour quelques centimes, des numéros de téléphone de personnes les ayant pourtant gardés confidentiels. Lusha semble être encore sur pied, mais les téléspectateurs curieux ont constaté la mystérieuse disparition de Cold CRM. Va voir l'émission en replay sur le site de France 2, ça vaut le détour. Tes amis, comme l'avaient déjà fait tes parents dès ta naissance, te prennent en photo et postent ça sur Facebook. Tu n'es pas au courant et, à l'aide de l'identification de photo, voilà que ton profil fantôme associe un visage à ton nom. Et te localiser, même ton téléphone basique sait le faire, au grand soulagement de tes parents qui savent qu'ils pourront demander à la police de te retrouver quand tu auras 5 minutes de retard en sortant du collège.
Oui, par triangulation.
Ah, dis donc, tu as écouté l'épisode sur la géolocalisation il n'y a pas longtemps.
Oui, dans la voiture, en venant ici.
À propos, ça y est, tu as ta première voiture. Et avec un peu de chance, elle est vieille et n'a pas beaucoup d'électronique. Dans le cas contraire, tes parents t'ont fait un cadeau empoisonné, avec un GPS et tout un tas de capteurs qui analysent ta conduite pour freiner en cas d'urgence ou rectifier ta trajectoire en cas de problème. Mais heureusement, ces données restent théoriquement cantonnées dans ta voiture, bien que le concessionnaire ait la possibilité de les consulter à la prochaine révision. Mais les choses vont changer en mai 2022, des boîtes noires seront obligatoirement ajoutées aux voitures neuves.
Arrête ta science-fiction, hein !
Ok, vois ça auprès de la Commission européenne, ou rendez-vous dans un an. Cet appareil devrait relever la vitesse, la phase d'accélération ou de freinage, le port ou non de la ceinture de sécurité et les coordonnées GPS de l'accident. Ces données seraient enregistrées au moment de l'accident, mais aussi quelques secondes après et quelques secondes avant.
Donc ça enregistrera en permanence ?
Tant qu'il ne pourra pas prédire l'accident, oui, il n'y aura pas d'autre solution.
Et ça va enregistrer les conversations à bord comme dans les avions ?
Oula, je sens que tu commences à détester ce système. Non, le RGPD devrait pouvoir nous protéger à ce niveau. Bref, ces boîtes noires seront une obligation et auront un coût pour les constructeurs et donc pour les acheteurs.
Et il y aura un radar de vitesse intégré pour mettre des amendes en direct ?
Non, on n'en est pas là. Mais il y aura un limiteur de vitesse intelligent.
Désactivable ?
Oui, en cas d'urgence. Mais on se dirige peu à peu vers les voitures autonomes. Tu n'auras plus qu'à t'installer et à renseigner ta destination. C'est pas chouette, ça ?
Génial ! Donc on a de moins en moins la maîtrise de ses mouvements. Alors tu sais quoi ? Mes données personnelles, je m'en fous ! Parce que c'est le gouvernement qui vivra à ma place.
Oh là là, tu broies du noir.
Oui, comme la boîte.
Ah ben je vois que ça va beaucoup mieux. Bon, tu n'as pas de voiture, tu prends les transports en commun, et c'est parfait, tu échappes à tous ces capteurs. Mais tu as un abonnement à ton nom, et à chaque fois que tu utilises ta carte, ça relève le trajet que tu fais.
Ça, c'est pas bien grave.
Non, mais admettons que pour une raison ou une autre, tu veuilles garder tes trajets confidentiels. Alors tu prends seulement des tickets. Bon, tu les achètes avec ta carte bleue dans la station de départ. On sait exactement où tu étais à 15h12.
Ça me dérange pas.
Tu passes ensuite sous les caméras de surveillance. Oui, je sais, ça existe depuis longtemps et on n'en est pas mort. Maintenant qu'on a accepté ça, le gouvernement autorise par décret, c'était le 10 mars dernier, je cite, « le recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux du port du masque dans les transports ». Alors, ça ne te dérangerait sûrement pas de vivre à Nice, où plus de 1200 caméras étaient déjà déployées lors de l'attentat de 2016. Et depuis 2018, le projet Safe City, dans la même ville, est un test grandeur nature d'analyse des vidéos collectées depuis ces caméras qui se sont encore multipliées depuis l'attentat. Ce projet a pour objectif, je cite, d'anticiper les incidents et les crises, de collecter le maximum de données existantes et d'effectuer des corrélations et rechercher des signaux faibles.
Des signaux faibles ?
Oui, le moindre petit indice permettant l'anticipation. Autrement dit, ta bouille est enregistrée dès que tu sors de chez toi, et on pourrait faire un film passionnant et sans interruption sur tes 2 heures de shopping.
Ah d'accord, alors je vais éviter d'aller lécher les vitrines à Nice.
Mais ne t'en fais pas, ce genre de projet existe aussi dans d'autres grandes villes, comme Toulouse et Marseille. Bon, voilà, tu es dégoûté de sortir, alors tu appelles une amie pour discuter un peu. Et le projet de loi antiterroriste arrive avec d'autres boîtes noires, déjà évoquées dans d'autres épisodes, pour permettre la surveillance par algorithme. Jusque-là, seules les données téléphoniques étaient concernées. Maintenant, ces analyses s'invitent aussi sur les communications sur Internet. Allez, j'arrête avec les surveillances avant que tu ne te manifestes énergiquement. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre Micro-Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez Étienne Micro-Cravate et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Tu achètes une maison. Mais tu n'as pas de compte en banque assez fourni pour la payer cash. Il faut donc faire un emprunt. Et là, la banque et les assurances, en position de force, te demandent de renseigner des tonnes d'informations sur ton patrimoine et ta santé, sans quoi la maison, ben, tu peux l'oublier. Et même en répondant à toutes les questions, tu peux être confronté à un refus si tu ne remplis pas les critères. C'est ce qui est arrivé récemment à un couple. Madame, guérie d'un cancer, a répondu honnêtement au questionnaire des assurances sur sa santé. Celles-ci leur ont refusé le contrat et ont par contre déclaré conserver les renseignements fournis pendant 5 ans. Les banques et assurances ont aussi la possibilité de monétiser les données de leurs clients.
Avec leur consentement ?
Oui, heureusement. Un consentement éclairé et non forcé. Certaines néobanques sont par exemple partenaires de l'entreprise SmartPush pour mettre en place ce genre de dispositif. Quant à ta carte bleue, ta banque connaît tous tes achats et lieux d'achat sans que tu aies à remplir des formulaires. On peut considérer ça comme une fuite de données passive dans la mesure où tu ne peux plus vraiment faire autrement. Les chèques sont de moins en moins acceptés et on fait tout pour te dissuader de payer en liquide en te proposant le paiement sans contact. C'est simple, rapide, et tu ne te paies pas la honte face aux gens de la file en sortant tes pièces jaunes.
Et les cartes de fidélité ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme fuite de données passives ?
Si le magasin t'a bien renseigné, tu dois savoir qu'il collecte tes données d'achat. Et ce n'est pas une obligation d'en détenir une pour acheter. Donc non, j'oserais dire que c'est une fuite de ton plein gré. C'est la fin du week-end et du shopping, tu retournes au travail. Travailler est une obligation pour vivre de manière indépendante.
Jusque-là, d'accord.
Si tu es employé, tu dois te plier au règlement intérieur et le plus souvent venir dans les locaux de l'entreprise. Ok. Certaines entreprises sont dotées de caméras qui parfois enregistrent à des fins de sécurité. Dans ce cas, tu es prévenu et ne subis pas de conséquences. Mais heureusement, beaucoup plus rarement, certaines abusent de ces dispositifs et de tout autre moyen informatique, voire de simples discussions, pour collecter des données privées sur leurs salariés et établir des profils individuels, tels que ça avait été découvert chez H&M par exemple pendant 5 ans depuis 2014. Tu rentres chez toi et découvres une facture d'électricité dans ta boîte aux lettres, enfin dans ta boîte email. Elle te renseigne sur ta consommation alors que personne n'est venu relever le compteur.
Normal, j'ai un Linky, c'est relevé à distance.
Voilà, encore une fuite de données passives. Si tu veux avoir de l'électricité chez toi, il faut accepter d'envoyer ta consommation à ton fournisseur. Des relevés à la demi-heure sont possibles sur ce genre de compteur et permettent d'établir le profil et le mode de vie du consommateur. Ces relevés précis étaient associés à l'obtention forcée du consentement des consommateurs et à une durée de conservation trop longue. Après intervention de la CNIL, on peut maintenant opter pour des relevés moins intrusifs. Ils impliquent donc à présent peu de conséquences.
Donc tu les rayes de ta liste.
Mais non, ils sont toujours obligatoires, donc je vais les garder dans un coin. Tu remplis ta déclaration d'impôt en ligne.
Ah !
Ou toute autre démarche administrative obligatoire.
Oh !
Donc tu fournis plein de renseignements personnels.
Oui, mais c'est moi qui les fournis, donc ce n'est pas une fuite passive.
Non, mais c'est une obligation. Et ça part sur des serveurs sur lesquels tu n'as pas la maîtrise. Alors, je garde ça bien en vue en bas de liste. Et c'est justement le bas de ma liste. Vous avez sûrement plein d'autres exemples en tête, mais on a déjà cité ici l'état civil, le livret scolaire, les blogs et réseaux sociaux soigneusement alimentés par notre entourage, Facebook et ses profils fantômes, les téléphones mobiles, même les plus basiques, les voitures, transports en commun, caméras de surveillance, entreprises, banques et assurances, compteurs d'électricité ou autres, et les démarches administratives obligatoires. Alors, inutile de lutter pour protéger ce type de données de toute façon déjà diffusées de manière passive, mais inutile aussi de les dévoiler à ceux qui n'en ont pas la nécessité.
Comme les formulaires un peu trop curieux ?
Voilà, ou les appels téléphoniques de démarchage commerciaux, ou encore les emails de phishing. Donc, une partie de notre vie est diffusée sur des tonnes de serveurs, on n'y peut rien, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, alors prenez soin de vos données, salut !